Chapitre 20. Je suis incapable de penser, incapable d'attendre. Je peux seulement agir. Quincy et Rainy sont de nouveau plongés dans une conversation à bâton rompu, cette fois-ci dans le bureau de Quincy. Je les entends discuter à voix basse, les yeux rivés sur l'ordinateur. « Je sors Luca à faire ses besoins, » dis-je par-dessus mon épaule. « je sais, je ne quitte pas le jardin. » Et je respecte la consigne. Je laisse Luca faire ce qu'il a à faire et j'entre dans le garage par la petite porte. Je trouve mon vélo, je le sors et je le dépose à l'abri des regards. Le tout prend moins de 2 minutes et Luca ne m'a pratiquement pas quitté d'une semelle, un grondement sourd dans la gorge. Je le ramène vers la maison en essayant d'oublier que mon cœur bat à tout rompre dans ma poitrine, que mon t-shirt est collé à ma peau et que j'ai à la fois trop froid et trop chaud. Comme si j'allais vomir ou peut-être juste exploser. Pas question que je croise Rainy et Quincy en rentrant. Au premier coup d'œil, ils devineront ce que je mijote. Je m'arrête devant la porte. Et je prends mon chien dans mes bras. Je le serre fort comme je n'ai jamais serré personne. Je ne pleure pas parce que j'ai la gorge nouée et que certaines émotions... Pleurer serait trop simple et n'en dirait pas assez à Luca sur ce que j'éprouve réellement. Ensuite, je retrouve mon sang-froid. Je suis une pro, me rappelais-je. Après tout ce que j'ai perdu ou laissé derrière moi. S'il y a bien une fille qui peut le faire, c'est moi. Je me redresse, scrute les alentours. J'essaie de sentir un regard sur moi, la présence de mon frère. Si on était dans un film, je pourrais me servir du pouvoir de la force ou je ne sais quoi. Mais je ne sens rien. L'air est tout simplement trop chaud, trop immobile. Luca ne daigne même pas regarder vers les bois. Je comprends le message et je fais rentrer mon chien dans la fraîcheur merveilleuse de la maison. Une fois dans la cuisine, je me sers un verre de citronnade en faisant un maximum de bruit, pour que personne ne s'inquiète. J'ai appris à connaître Quincy et Rainy. Ils peuvent être plongés dans un livre, absorbés dans leurs pensées devant la télé, perdus dans le regard l'un de l'autre. Mais si vous avez ne serait-ce que l'idée de faire une bêtise, ils le sauront tous les deux. Des profileurs. Pas étonnant que les services sociaux m'aient envoyé ici. Donc, aucune mauvaise pensée. De l'eau fraîche pour Luca, plutôt. Une grande gamelle, avec des glaçons. Son délice. S'hydrater est très important par temps de canicule. Je termine ma citronnade, bourre mes poches de barres énergétiques d'un côté, d'amandes de l'autre. Une chance qu'on n'ait jamais très faim quand il fait aussi chaud parce que je ne peux pas me charger outre mesure. Après la citronnade, j'avale un grand verre d'eau. J'ai l'estomac plein de liquide, ça clapote, mais je sais que je m'en féliciterai plus tard. Ensuite, je prends une pomme pour moi, un os à ronger pour Luca, et je repars vers ma chambre. Juste une ado qui prend un goûter pour elle et son chien. Rainy et Quincy sont toujours devant l'ordinateur. En passant, j'aperçois la photo d'un homme en tenue de camouflage, à terre, son uniforme taché de sang. Rainy se décale légèrement pour me dissimuler l'écran. « Si vous parlez aussi bas, » lançais-je au passage, « comment est-ce que je suis censée écouter depuis ma chambre ?» Ils ne répondent pas, mais je les sens pratiquement lever les yeux au ciel en duo derrière moi. Une fois dans ma chambre, je branche mon iPod sur mes haut-parleurs, sélectionne une liste de chansons au hasard et monte le son. J'ai l'habitude de disparaître dans ma tanière, surtout quand il y a un sujet dont je veux éviter de parler. Ils vont me laisser tranquille un moment, vu qu'eux-mêmes ont des questions interdites aux moins de 18 ans à étudier. Scène de crime, projet de voyage. Mais tôt ou tard, Rainy viendra frapper à la porte. Elle n'aime pas que je m'enferme trop longtemps. Et puis, il y a la question de notre vol de nuit, l'opération « Il faut sauver notre fille adoptive ». Je ne peux pas me permettre d'attendre, ni de réfléchir. Il faut que je bouge. Goûter dans le sac à dos. Il me reste 2 bouteilles d'eau dans mon sac de piscine. C'est loin d'être suffisant vu que le thermomètre affiche pratiquement 40 degrés, mais je ne pourrais sans doute pas en transporter davantage. Je me faufile à 4 pattes sous mon bureau. Dans une enveloppe scotchée sous le tiroir des crayons se trouve ma réserve d'argent secrète. Les enfants placés font ce genre de choses. On amasse. On planque. C'est plus fort que nous. Je me demande ce que mon frère a pu accumuler jusqu'au jour où il a basculé. Il m'a prise en photo. Il m'a repérée, suivie. sans rien dire. Il a juste attendu 5 jours et laissé exploser sa colère à la face du monde. Est-ce que je connais ce garçon, au juste? Au bout de 8 ans, est-ce qu'il a repensé à nos petits déjeuners de céréales et à nous virer en bibliothèque quand il m'a vue? Ou est-ce qu'il s'est seulement souvenu de la dernière nuit? De notre père qui nous courait après, le visage écarlate, les yeux exorbités, un couteau ruisselant de sang à la main? Du moment où je lui avais tendu la batte. De celui où nous avions tous les deux regardé notre mère qui par terre gémissait, reprenait conscience. Et je me mets au défi, un bref instant, de regarder en face l'idée qui me fait le plus peur. Celle que tout est ma faute. Si mon frère est un monstre, c'est moi qui l'ai poussé dans cette voie. L'argent, $242. Je le répartis en plusieurs tas. Une partie dans le sac à dos, une partie dans les poches de mon short, une partie dans la chaussette gauche. On ne sait jamais. Et puis voilà, l'heure est venue. Je suis plus prête que je ne le serai jamais à mettre en œuvre le plan le plus débile de toute l'histoire de l'humanité. Luca me surveille, comme depuis toujours. Mon chien. Il va venir avec moi parce que je ne pourrai jamais le laisser sans qu'il donne l'alerte. Ce qui fait de lui le plus courageux, le plus loyal, le meilleur de tous les chiens du monde entier. Et de moi, j'ai de nouveau la gorge nouée. Mais je ne le prends pas dans mes bras. Impossible. Sinon je vais m'effondrer. Je l'aime. Plus que je n'ai jamais aimé quiconque. Mais à l'heure qu'il est, c'est toute ma famille qui est en danger. Mieux vaut réduire le nombre de victimes potentielles, c'est logique. Et si Luca et moi partons, au moins Rainy et Quincy ne seront plus des cibles. Il n'y aura plus que 2 joueurs sur le terrain. On va trouver Telly, Luca et moi. Je ne sais pas pourquoi je pense que c'est tellement important, mais c'est comme ça. Telly n'est pas seulement le grand frère qui m'a autrefois sauvé la vie, autrefois cassé le bras. C'est celui qui a voulu me retrouver. Et même si je comprends que mes profileurs de parents veuillent m'emmener voir ailleurs, en réalité je ne marche pas. Parce que c'est quoi l'idée? Quand on aura enfin abattu Telly, j'aurai la permission de rentrer chez moi? Combien de personnes seront mortes? Combien de questions sans réponse se seront accumulées dans ma tête? C'est hors de question. Il faut que je le voie. Il faut que je sache. Est-ce que mon frère est devenu mon père? Est-ce que ce sera mon tour après? Une dernière réunion de famille. Je vais perdre quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Je sais seulement que je vais souffrir. La fenêtre de ma chambre donne sur l'avant de la maison. Grâce aux soucis de sécurité de Quincy, il n'y a pas le moindre arbuste décoratif le long de la façade. Car figurez-vous que ces jolies plantes représentent autant de possibilités de cachette pour un intrus mal intentionné. On ne trouve donc aux abords de la maison que des massifs de fougères basses et de fleurs sauvages. La nuit, l'alarme se déclenche dès qu'on ouvre une fenêtre ou une porte. Sans parler des projecteurs à détecteurs de mouvement qui s'allument plein phare pour crucifier tout kidnappeur qui essaierait de s'introduire dans la maison, ou pourquoi pas une adolescente idiote qui voudrait faire le mur. Mais à 3 heures de l'après-midi par une chaude journée du mois d'août, ces projecteurs ne sont pas d'une grande efficacité au moment où j'ouvre sans bruit ma fenêtre à guillotine. « Rustig », dis-je à Luca. Ça veut dire « silence » en néerlandais. Il est déjà aux aguets, les oreilles en avant, la queue en l'air. Un chien policier à la retraite qui reprendrait du service. Il faut que je déplace ma lampe de chevet pour que nous ayons la place de sortir par la fenêtre. C'est l'étape la plus difficile et je sens que je suis reprise d'un tremblement, le visage ruisselant littéralement de sueur. Rainy et Quincy pourraient à tout moment conclure leur conversation, ou avoir des questions à me poser concernant notre destination, ou en avoir assez de ce vacarme infernal que j'appelle musique. Ce sont les mots de Quincy, pas les miens. Jamais je ne vais réussir mon coup. Ils vont me surprendre en train d'enjamber la fenêtre, ou d'enfourcher mon vélo, ou même un quart d'heure après. Sérieusement, comment une gamine de 13 ans et son chien pourraient-ils réellement échapper à 2 policiers hors pair? Ce projet est idiot. Je suis une idiote. La lampe est posée par terre. J'attrape d'abord Luca et je lui donne une bonne poussée. Ses griffes peinent à accrocher sur la table de chevet. Nous allons forcément laisser des milliards d'indices derrière nous, mais cela n'a aucune importance. Luca saute tout seul par la fenêtre. Je laisse ensuite tomber mon sac à dos qui écrase une fougère. Gagné, encore une trace de notre évasion. À mon tour de passer par la fenêtre. Je fais ça avec beaucoup moins de grâce que Luca. C'est bien moi, ça. Tout en coude pointu et en genoux saillants. Les yeux tellement embués que je n'y vois plus rien. Me voilà de l'autre côté. D'ici, je ne peux plus atteindre la lampe pour la reposer sur la table de chevet. Quelle importance. Est-ce qu'il faudra vraiment plus de 2 secondes à Quincy et Rainy pour comprendre ce qu'a fait leur impulsive de fille? Quincy pincera les lèvres. Quant à Rainy, je refuse d'imaginer sa réaction. Il faut bouger. Enfiler mon sac à dos, trottiner, Luca sur mes talons. Arrivé près du garage, j'enfourche mon vélo. Les bois derrière la maison sont sillonnés de coulées de serre très fréquentées. Luca et moi les empruntons tout le temps. Même quand je suis à vélo, Luca me suit toujours sans problème. Je pars vers la gauche, en ligne droite depuis la maison. Descendre l'allée de gravier serait trop voyant, alors nous allons couper à travers bois, ressortir un peu plus bas. Prendre à gauche sur la route, filer en roue libre vers la grande route, et ensuite... La route, la forêt, ce sera du pareil au même. À la seconde où ils s'apercevront de ma disparition, Rainy et Quincy se mettront en chasse. Et ce ne sera plus qu'une question de temps avant qu'ils me retrouvent. Au mieux, j'ai 1 heure. Au pire, 1/2 heure. Pour retrouver un frère assassin dont je me souviens à peine. « Rennen !» dis-je à Luca. « C'est parti !» Lorsque nous émergeons de la forêt, je prends à gauche sur la petite route secondaire et je descends en roue libre. D'après mes parents, c'est à 20 kilomètres au nord d'ici que Telly a été vu pour la dernière fois. Mais comme il a piqué un quad, j'imagine qu'à l'heure qu'il est, il se trouve partout sauf là-bas. Quelle direction prendre? Je pourrais faire un tour du côté de la maison de sa famille d'accueil, mais vu qu'il les a assassinés, il y a peu de chances qu'il y retourne. Et chez nos parents à nous? Aucune idée de l'endroit où nous vivions. Je n'étais qu'une gamine. J'ai un vague souvenir de l'intérieur, une image de la cuisine, de ma chambre. Mais l'adresse, c'est le trou noir. Et pourquoi Telly irait-il là-bas? Nos parents ne s'y trouvent plus puisque, tiens, eux aussi, il les a tués. Mais dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Je n'ai pas menti à Rainy tout à l'heure. Je n'ai eu aucun contact avec mon frère. Je ne connais pas son numéro de téléphone. Il n'y a pas de 06 grand frère pour le joindre d'un coup de baguette magique et lui dire « Il faut qu'on se parle ». En plus, j'ai éteint mon portable. Ce sera la première chose dont mes parents se serviront pour me localiser. J'essaye de respirer à fond, de pédaler bien régulièrement pour que Luca puisse tenir le rythme. Et j'essaye un instant de raisonner comme mes parents profileurs. Le temps manque, mais c'est toujours comme ça quand ils sont sur une affaire. Il faut réagir vite, retrouver le fugitif. Ils parlent de ces sujets au dîner. Alors que ferait-il en premier? Aller voir les adresses connues. Quincy et Rainy commenceraient par répertorier les lieux habituellement fréquentés par le fugitif. Mais j'ai déjà fait le tour de cette liste et ça ne m'a mené nulle part. Étape suivante. Identifier ses amis et sa famille. Bonne question. Je ne connais aucun des amis de Telly et, à part moi, il a tué toute sa famille. J'arrive au carrefour où la route secondaire rejoint la grande route qui conduit à la ville. Luca s'arrête à côté de moi, langue pendante. Je prends un instant pour le regarder. Jusque-là, mon chien semble heureux de cette séance de sport impromptue. Il faudra bientôt faire une pause, nous donner de l'eau à tous les deux. Mais pour l'instant... Faute de projet précis, nous tournons vers la ville. Juste une ado et son chien qui font une balade à vélo dans la chaleur accablante du mois d'août. J'essaie de me remémorer des détails de mon enfance susceptibles de m'aider à retrouver mon frère. Dans mon esprit, il n'y avait toujours que Telly et moi. C'était Telly qui me donnait mon petit déjeuner, qui m'habillait, qui m'accompagnait jusqu'à l'arrêt du bus scolaire et qui m'emmenait à la bibliothèque après l'école. Je lui tenais la main. Ça, je m'en souviens. Ma main dans la poigne solide de mon grand frère. Un instant, je flanche, mon vélo 10 vitesses titube. Pourquoi ne l'ai-je jamais revu ou appelé après le drame? Parce qu'il m'avait blessé? Parce qu'il m'avait démoli le bras? J'étais terrifiée. J'ai crié. J'ai hurlé. Mais après, la dame des services sociaux est venue dans ma chambre d'hôpital. J'étais dans tous mes états. « Telly me déteste », je lui ai dit. Je sais que sur le moment, avec cette douleur toute fraîche à l'épaule, c'était ce que je ressentais. Et puis, c'est le fin mot de l'histoire, évidemment. cette chose dont nous n'avons jamais parlé. C'est sans doute vrai que mon frère me déteste. Comment lui en vouloir? Alors, quand je suis arrivée dans ma première famille d'accueil et que Telly n'y était pas, j'ai accepté cela comme une punition. Mon frère avait coupé les ponts avec moi. Jamais il ne m'était venu à l'esprit que lui pouvait penser l'inverse, que je l'avais rejeté. J'ai les yeux qui pleurent. Même le visage dégoulinant de sueur, je reconnais le goût salé des larmes. Je serre les dents, continue à pédaler. Le lieu de travail. Les fugitifs retournent parfois chez leur employeur, souvent pour voler des objets utiles qu'ils savent pouvoir trouver là-bas. Mais si Telly avait un travail, personne ne m'en a informé. Cela laisse les lieux de prédilection. Disons le bar ou le parc du quartier. Luca et moi avons un arbre préféré dans le bois derrière chez moi. Un vieil arbre au tronc épais, l'écorce couverte de tant de sortes de mousse qu'on dirait un tapis vivant. Il nous arrive de rester des heures assis au pied, juste pour trouver de nouveaux motifs dans la mousse en respirant un air moite à l'odeur d'humus. Je me sens toujours mieux après ça. Je connais un des lieux de prédilection de Telly. Il a toujours aimé les bibliothèques. Lui et moi après l'école. Une bibliothécaire. Je me souviens vaguement d'elle. Pas tant les traits de son visage que l'acidité du jus de pomme sur ma langue. La bibliothèque de Bakersville ne se trouve qu'à 8 kilomètres d'ici. Une distance raisonnable pour Luca et pour moi sur mon vélo. C'est aussi là-bas que Telly m'a repéré qu'il a pris ses photos la semaine dernière. Ce qui veut dire qu'il y a déjà été et qu'il sait que j'y vais aussi. Un lieu tout indiqué donc pour des retrouvailles entre frères et sœurs. Sauf que le bâtiment est aussi en plein centre-ville. Les feux de circulation sont équipés de caméras, je le sais. Et les 3/4 des policiers de l'État sont en train de patrouiller. Je ne pourrai jamais aller jusqu'à la bibliothèque sans me faire repérer, surtout avec Luca à mes côtés. Et comment Telly saurait-il qu'il peut me retrouver là-bas? Il ignore totalement que je suis moi aussi en fuite. Il est sur ses rails, moi sur les miens, et dans une région aux espaces sauvages aussi étendus. Je m'agite, mais je n'ai en réalité aucun moyen de trouver ma cible, ni de la laisser me trouver. Je suis vraiment partie sans idée ni plan établi. J'ai surtout rendu Rainy et Quincy fous de rage contre moi. Je devrais faire demi-tour, tout de suite. Je pourrais prétendre que j'avais juste besoin de me dégourdir les jambes, que je me suis laissée déborder par la gravité de la situation. Est-ce qu'ils me croiront? Bien sûr que non. Mais si je rentre de mon propre chef, comment pourront-ils me contredire? Le problème, c'est que je suis incapable de rentrer. Je devrais. Je me conduis comme une tête brûlée, déraisonnable et impulsive. Tous ces défauts dont je suis censée me corriger. Mais c'est peut-être précisément le sujet. Tous ces défauts, Telly les a aussi. C'est pour cela qu'il faut que je le retrouve. Parce qu'au fond, ce n'est pas Telly le tueur que je cherche. C'est Telly mon frère. La seule famille qui me reste. Si je pouvais seulement lui parler, je pourrais le faire changer d'avis, obtenir son repentir, le sauver. Quel imbécile je fais. Et là, j'ai une illumination. Quand Rainy et Quincy s'apercevront de ma disparition, ils déclencheront un avis de recherche. Peut-être même une alerte enlèvement, même si je ne suis pas certaine qu'on puisse faire ça quand il s'agit a priori d'une fugue. Quoi qu'il en soit, en même temps qu'ils se lanceront à mes trousses, ils contacteront les autorités. Après tout, le comté grouille d'agents. Autant profiter de toutes les paires d'yeux disponibles. Et Telly? Si j'étais lui, en fuite, pour chasser, j'aurais une radio. Réglée sur la fréquence des services d'urgence et de sécurité. Donc, quand l'alerte sera donnée, il l'entendra aussi. La nouvelle que sa sœur est officiellement dans la nature. À partir de ce moment-là, je n'aurai plus à localiser Telly. Si j'arrive à rester à l'abri des regards suffisamment longtemps, c'est mon frère, le tueur le plus recherché de tout l'État, qui me trouvera.